Donc, je vous avais laissé en sommet de Bagdad, date importante, bien évidemment, et où exactement Saddam Hussein joue la carte de l'anti-américanisme et du soutien de l'Irak à la cause palestinienne. En même temps que le sommet, le 30 mai 1990, l'armée israélienne intercepte une opération de commando palestinien sur des plages à proximité de Tel Aviv. 4 militants sont tués et 12 sont faits prisonniers. L'opération est revendiquée, enfin a été montée plus exactement, par Abu El Abbas, celui qui avait fait déjà l'affaire de l'Aquila et l'Auro, à partir de la Libye. Selon toute probabilité, l'opération était commanditée de Bagdad afin de compromettre les relations entre l'OLP et les États-Unis. Le sommet arabe termine ses travaux par une série de condamnations de la politique américaine et israélienne, mais sans décider de mesures concrètes. Le 31 mai, les États-Unis adressent une mise en demeure à l'OLP de dénoncer l'opération et d'exclure le FLP de ses rangs. En même temps, ils opposent leur veto à New York sur une résolution du Conseil de sécurité préconisant l'envoi d'une commission d'enquête dans les territoires occupés. En protestation, le lendemain, les représentants politiques palestiniens des territoires mettent fin à tout contact avec les diplomates et représentants américains. Pour Faisal al-Husseini, en grève de la faim depuis le 20 mai, les Palestiniens demandaient seulement à la communauté internationale de les protéger. De toute façon, le niveau de dialogue palestino-américain était si bas que sa suspension n'aura pas d'effet concret. Arafat tente de se dissocier de l'opération du FLP, Front de Libération de la Palestine, tout en affirmant qu'il n'a pas le pouvoir de l'expulser de l'OLP en dehors d'une décision du Conseil national palestinien. Le comité exécutif de l'OLP est réuni justement à Bagdad, affiche le 7 juin que la rupture porterait un coup aux démarches de paix. L'administration Bush temporise, mais elle est soumise à de très intenses pressions au Congrès pour mettre fin au dialogue avec l'OLP. Le 11 juin 1990, le nouveau gouvernement Shamir, coalition de la droite et des religieux, obtient l'investiture à la Knesset par 62 voix contre 57 et une abstention. David Levy a les affaires étrangères, Arendt la défense, Sharon le bâtiment et le logement, Modaï les finances. L'équipe dirigeante s'était opposée aux accords de Camp David et avait soutenu la guerre du Liban. Le nouveau gouvernement pose comme condition préalable aux négociations que les représentants palestiniens acceptent comme cadre et issue des négociations l'autonomie décidée à Camp David. S'y ajoute une visite ostensible d'Arendt dans deux colonies de Cisjordanie, ce que Rabin n'avait jamais fait comme ministre de la Défense. Exaspéré, le 13 juin, Baker, parlant devant la Commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants, demande de la bonne foi de la part des intéressés. Notre numéro est le 1-202-456-1414. Quand vous serez sérieux à propos de la paix, appelez-nous. Il s'agit du standard de la Maison-Blanche. Dans ses mémoires, Baker prétend qu'il ne connaissait pas par cœur le numéro du standard du département d'État, puisque comme il avait l'habitude d'appeler la Maison-Blanche puisqu'il était au département d'État, il ne connaissait pas le numéro du département d'État. Mais plus subtilement, il rappelle aussi que c'est le président des États-Unis qui définit la politique étrangère, d'où le fait que le numéro soit le standard de la Maison-Blanche. D'ailleurs, le même jour, Bush adresse à Shamir une lettre marquant qu'en l'absence de compromis sur la composition de la représentation palestinienne, il sera impossible de lancer une initiative diplomatique crédible. Shamir envoie des messages affirmant qu'il est sérieux, tout en ne bougeant pas sur la question de la représentation palestinienne. Personne à la Maison-Blanche ou au département d'État ne le croit. Le 20 juin, les États-Unis suspendent le dialogue avec l'OLP. L'avis général résumé par François Mitterrand le 21 juin, si les États-Unis pouvaient faire preuve de la même fermeté à l'égard d'Israël que vis-à-vis de l'OLP, ce serait une bonne chose. En revanche, en Israël, le Likoud, comme les travaillistes, se félicite de la décision américaine. L'actualité du mois de juillet 1990 est dominée par le plan d'urgence lancé par Sharon pour accueillir l'arrivée massive de juifs soviétiques. La répression de l'intifada se durcit, tandis que dans les milieux palestiniens, on évoque de plus en plus une militarisation de la lutte. Au Liban Sud, les combats reprennent entre Hamas et Hezbollah, et le Fatah se donne le luxe de s'interposer entre les combattants. C'est une nouvelle variante de la guerre civile libanaise. En Israël, Rabin tente de supplanter Peres à la tête du parti travailliste. Alors tout ça, c'était sans compter sur Saddam Hussein. Au printemps 1990, Saddam Hussein a intensifié son temps militant envers Israël et les États-Unis alors que le prix du baril s'est effondré à 7 dollars le baril. Il accuse alors le Koweït et les Émirats arabes de produire au-delà des quotas autorisés par l'OPEP. Au mois de juillet, il devient de plus en plus agressif envers le Koweït, avec qui il existe depuis longtemps un contentieux sur les frontières. Il faut dire que les Britanniques avaient tracé les frontières du Koweït afin d'interdire à l'Irak un accès direct au Golfe. Les pays arabes s'activent pour proposer leur médiation. L'Égypte de Moubarak tranquillise les Américains. Il n'est pas question que l'Irak envahisse le Koweït. C'est pourtant ce qui se passe le 2 août 1990. Depuis l'année précédente, l'OLP s'est considérablement rapproché de l'Irak. Arafat a été considérablement impressionné par la puissance de l'armée irakienne et son organisation dépend beaucoup de l'aide financière irakienne, alors que les pays du Golfe, en particulier le Koweït, ont tendance à subventionner le Hamas. L'immobilisme de Shamir a rendu impossible toute solution politique, ce qu'a consacré la fin du dialogue décevant entre l'OLP et les États-Unis. L'économie du monde arabe dépend étroitement des variations de la rente pétrolière, y compris dans les États non producteurs. Le contre-choc pétrolier a conduit à une diminution du niveau de vie moyen des populations et à une très forte impopularité des monarchies pétrolières. La chute du rideau de fer est loin d'avoir provoqué une euphorie. On y a vu la disparition de l'indispensable contrepoids à l'hégémonie américaine. L'immigration des Juifs soviétiques a été considérée comme une menace. En revanche, les politiques pragmatiques des régimes arabes ont paru conduire à un alignement sur les positions occidentales. Le défi irakien à la politique américaine, l'existence d'une puissante armée arabe apparemment capable de faire face à Israël et le défi aux monarchies pétrolières sont des facteurs essentiels de la popularité de Saddam Hussein, sauf en Égypte, où les mauvais traitements infligés en Irak aux travailleurs immigrés égyptiens ont rendu son régime très impopulaire. À la fin juillet, Arafat a tenté une médiation de la dernière chance entre l'Irak et le Koweït. Il semble avoir été convaincu du sérieux des intentions de Saddam Hussein et a imploré les Koweïtiens de céder à toutes ses revendications économiques et territoriales. Ses interlocuteurs, qui ont reçu l'assurance de Moubarak qu'il n'y aurait pas d'invasion, ont fait la sourde oreille. Après tout, le chef de l'OLP est un allié notoire de l'Irak et non une personnalité neutre. À la nouvelle de l'invasion, Arafat est le premier surpris. Il ne s'attendait pas à ce que l'Irak s'empare de la totalité de l'émirat et ne se contente pas des territoires contestés. Salah Khalaf, Abu Iyad, qui a toujours pris ses distances avec l'alignement sur l'Irak, se montre préoccupé du sort des 400 000 Palestiniens de l'émirat, du danger de voir la question de Palestine être reléguée à l'arrière-plan et de la difficulté pour l'OLP de prendre position en cas de scission du monde arabe. En revanche, Arafat se voit en position de médiateur, trouvant une solution arabe à la crise et remettant au premier rang des préoccupations internationales la Palestine, une fois montré que le maintien du statu quo actuel est un facteur de déstabilisation. Autrement dit, au matin du 2 août 1990, selon la syntaxe géopolitique de la région, on se trouve devant deux possibilités concurrentes, une arabisation ou une internationalisation de la crise. Arafat a choisi la première solution où il se retrouve avec l'autre ami de Saddam, Hussein, le roi Hussein de Jordanie. Le monarque hachémite avait cru aux assurances irakiennes qu'il n'y aurait pas de recours à la force pour résoudre la crise. Il doit tenir compte de la situation intérieure précaire de son royaume depuis les émeutes d'avril 1989, avec une immense popularité de Saddam Hussein. De plus, l'économie jordanienne dépend toujours plus de sa complémentarité avec l'Irak du fait de l'aménuisement de l'aide saoudienne liée au contre-choc pétrolier. Les relations avec Israël se sont dégradées lors du gouvernement Shamir. L'immigration des Juifs soviétiques et la reprise par des ministres comme Sharon que la Jordanie est un État palestinien peut être considérée comme une menace pour la monarchie, voire l'annonce d'un second exode palestinien. Le rapprochement militaire avec l'Irak attise la tension déjà existante. Arafat et le roi Hussein agissent simultanément pour dégager une solution arabe qui satisferait l'essentiel des revendications irakiennes contre l'évacuation de l'émirat. Ils obtiennent de Moubarak, le 3 août, l'engagement d'un délai de grâce de 2 jours aboutissant à la tenue d'un mini-sommet arabe, Jordanie, Égypte, Arabie Saoudite, Yémen, Irak et Koweït, dans lequel Saddam Hussein s'engagerait à évacuer sa conquête. En contrepartie, Bagdad exigerait l'absence de condamnation de la part de la Ligue des États arabes. En fait, l'Égypte et l'Arabie saoudite n'ont accepté la perspective de l'arabisation que dans l'attente d'une meilleure solution pour leurs intérêts. Un Irak sorti victorieux de la crise relèguerait l'Égypte au rang de puissance régionale secondaire. Le royaume saoudien serait en danger permanent d'invasion irakienne sans protection occidentale crédible. Moubarak et le roi Fahd n'accordent plus aucune crédibilité aux engagements de Saddam Hussein après le démenti par les faits de ses assurances précédentes. Enfin, la cause irakienne ne bénéficie d'aucun soutien populaire dans les deux pays, Égypte et Arabie saoudite. Assad les rejoint dans une commune hostilité à l'Irak. Encore faut-il obtenir l'internationalisation crédible de la crise. Loin d'avoir comploté de façon extraordinairement manipulatrice, les Américains ont été pris par surprise. L'essentiel de la diplomatie internationale a été consacré à gérer pacifiquement les conséquences de la chute du mur de Berlin, c'est-à-dire obtenir un règlement définitif de la question allemande. On a délaissé les questions moyen-orientales et Baker a abandonné, faute de perspective, son initiative de relance du processus de paix. Certes, l'Irak a constitué dans les derniers mois un sujet de préoccupation croissant, mais on n'a pas cherché l'affrontement. On s'est contenté de mettre fin aux lignes de crédit fournies à l'Irak pour financer ses importations américaines, essentiellement des produits alimentaires, et on a pris position de neutralité sur la nature du contentieux entre l'Irak et le Koweït. L'affaire n'a été suivie qu'à un échelon secondaire au département d'État et au Conseil de sécurité nationale. L'Égypte et l'Arabie saoudite ont fourni des informations rassurantes durant la crise du mois de juillet et les militaires américains étaient hostiles à toute mesure de déploiement de forces dans la région du Golfe. Le consensus des experts, y compris ceux des services israéliens, et que Saddam Hussein ne fait qu'exercer un chantage à l'usage de la force et que ce serait irrationnel de sa part de redéfinir, de passer aux actes. Je me mettais dans le consensus des experts en 1990, j'ai sorti cette analyse brillante à ce moment-là. Donc, les experts, c'est ceux qui ont le droit de se tromper publiquement. C'est seulement au début de l'été que les stratèges américains ont entrepris de redéfinir le plan de défense de la péninsule arabique, conçu originellement en fonction d'une invasion soviétique de l'Iran, en ajoutant l'hypothèse d'une invasion par l'Irak d'un de ses voisins arabes. Une première simulation électronique a été faite en juillet, donnant le sentiment étrange que la réalité commence à ressembler à l'exercice du fait de la concentration en cours des forces irakiennes à la frontière du Koweït. Le 20 juillet, Moshe Arendt et Oud Barak, chef d'état-major adjoint de l'armée israélienne, se sont rendus à Washington pour présenter le dossier du nucléaire irakien beaucoup plus avancé qu'on ne l'avait estimé auparavant. Ils demandent aux Américains une aide dans le domaine des systèmes antimissiles et des détections avancées. La discussion a commencé à ce sujet sans prise de décision hâtive. L'invasion du Koweït donne à Saddam Hussein le moyen de contrôler le marché mondial du pétrole en ajoutant aux ressources de l'Irak celles de l'Émirat et en satellisant les monarchies pétrolières du Golfe. Elle constitue un défi majeur au nouvel ordre international en train d'émerger de la fin de la guerre froide. La décision immédiate de Bush et de Baker est de s'y opposer résolument en constituant une coalition internationale, en imposant des sanctions économiques et politiques et en n'écartant pas le recours ultime à la force armée. La première étape est de contenir l'Irak et de l'isoler. Tout dépend du facteur saoudien. Dès le 2 août, l'ambassadeur saoudien à Washington, le prince Bandar Ben Sultan, reçoit communication des informations fournies par les satellites d'observation américains sur la progression des troupes irakiennes vers la frontière saoudienne. Ce qui compte pour lui n'est pas le contenu de la communication, mais la réalité de la détermination américaine à s'opposer à Saddam Hussein. Le sort de son pays est en jeu, il se rappelle les atermoiements de Carter à le protéger et la futilité de l'action américaine au Liban sous Reagan. On lui fournit alors le plan de contenu de défense de la péninsule qui comprend l'envoi de 220 000 soldats américains plus la marine et l'aviation. Le même jour, le Conseil de sécurité vote la résolution 660 qui condamne l'invasion et exige le retrait immédiat et inconditionnel des forces irakiennes. Par un mouvement de balancier habituel, qu'on retrouvera en 2003, les services de renseignement qui n'ont pas prévu l'invasion du Koweït voient partout des signes précurseurs d'une attaque de l'Arabie saoudite, créant un sentiment d'urgence. L'ambassadeur saoudien est maintenant convaincu de la détermination américaine, mais il faut encore persuader le roi Fahd. Bandar retourne précipitamment dans son pays et se trouve en mesure de faire savoir à ses partenaires américains qu'il a l'acceptation de son maître. Dès lors, on peut procéder de façon plus formelle, étant clairement entendu qu'une réponse négative ne serait pas acceptable. Le secrétaire à la Défense, Dick Cheney, se rend à Riyad à la tête d'une délégation militaire et reçu par le roi le 6 août. On reprend les photographies satellitaires et surtout le détail du déploiement du dispositif américain. Le monarque saoudien donne son accord, marquant que les Koweïtiens avaient trop attendu pour ménager les susceptibilités arabes, d'où leur sort actuel. Autrement dit, et contrairement à ce qui avait été prétendu à l'époque, ce qui a compté n'était pas les images américaines des concentrations des forces irakiennes à la frontière de l'Arabie saoudite, qui auraient déclenché la décision saoudienne de faire appel à l'armée américaine. Dans la réalité, c'est l'inverse. Les Saoudiens voulaient être sûrs que les Américains interviennent militairement. Et donc, quand ils ont la conviction que les Américains vont intervenir militairement, à ce moment-là, ils appellent les Américains. Mais le facteur irakien a été secondaire dans la décision saoudienne. En revanche, on a tout le style saoudien dans les négociations interarabes. Les Saoudiens n'aiment pas apparaître comme prendre une décision. Ils aiment bien toujours se présenter comme ayant été forcés de prendre une décision. Donc, dans l'affaire avec l'entretien avec Dick Cheney, c'était en quelque sorte laisser entendre aux autres qu'ils ont été forcés par les Américains à accepter la présence des troupes américaines en présentant les clichés des informations satellitaires. Vous comprenez le processus. Donc, mais tout était déjà joué avant la rencontre, puisqu'en fait, le moment essentiel, c'est quand Bandar Ben Sultan convainc le roi Fahd que les Américains vont intervenir militairement. La rencontre de Bandar avec ses interlocuteurs américains a donc été le moment décisif. Les alliés arabes de l'Arabie saoudite peuvent maintenant agir. Dès le 3 août, l'Égypte obtient une condamnation de l'Irak au Conseil des ministres de la Ligue des États arabes. 14 pays soutiennent la résolution, tandis que 5 expriment des réserves. L'OLP, la Jordanie, le Yémen, la Mauritanie et le Soudan. La solution arabe prônée par Arafat et le roi Hussein a échoué. Elle avait fort peu de chances de réussir, car le point fondamental est que Saddam Hussein était convaincu d'avoir les moyens militaires d'affronter les Américains. On ne le voit pas céder spontanément le 5 août, devant un mini-sommet arabe. De surcroît, il n'est plus crédible et il aurait fallu un certain temps pour un désengagement même partiel. Pour l'Égypte et l'Arabie saoudite, la solution en arabe n'était qu'une position de repli, lourde de menaces. L'option américaine était préférable. La résolution 661 du Conseil de sécurité de 6 août 1990 affirme le droit naturel de légitime défense individuelle ou collective face à l'attaque armée dirigée par l'Irak contre le Koweït, droit consacré par l'article 51 de la Charte, et impose un embargo sur les exportations de l'Irak et du Koweït. À partir du 7 août, le déploiement américain commence. Le premier objectif est d'assurer la sécurité de l'Arabie saoudite en créant une dissuasion suffisante avant l'arrivée massive des troupes américaines. Sur place, il existe déjà toute une infrastructure de base capable d'accueillir une armée plusieurs fois supérieure à l'armée saoudienne. Donc on voit qu'en fait tout est programmé à l'avance par les Saoudiens, puisqu'ils ont des installations de bases militaires qui ont été mises au point avec l'aide de conseillers militaires américains et qui sont proportionnées non pas à la taille de l'armée saoudienne, mais à la taille d'une armée 5 ou 6 fois supérieure à celle de l'armée saoudienne. La stratégie, donc, voilà ce que j'ai expliqué, et la stratégie saoudienne a été de mettre les bases à proximité de la frontière avec le Yémen, la Jordanie et le Koweït. L'édification des réserves du système a commencé au début des années 1970. Autrement dit, le fait que l'Arabie saoudite fonctionne avec des matériels américains de façon extrêmement majoritaire, plus le réseau des bases militaires hors de proportion à la taille de l'armée saoudienne, correspond à une situation de ce qu'on appelle en jargon américain militaire un prépositionnement américain dans le royaume. L'élément le plus important est l'équipement des bases aériennes. L'aviation est la première arrivée, suivie ensuite par les troupes aéroportées. L'opération bouclier du désert commence. Elle est d'abord la démonstration de la maîtrise de la logistique, point fort de l'armée américaine. Les Américains ont toujours été d'extraordinaires logisticiens depuis la Seconde Guerre mondiale. Les premières troupes de couverture arrivées, le reste suit par bateau. L'équipement en voie de communication moderne du royaume joue un rôle crucial, en particulier dans le domaine portuaire. En effet, pour faire arriver une armée de plusieurs centaines de milliers d'hommes, il faut un réseau de ports. Or, là aussi, l'Arabie saoudite dispose, grâce à la rente pétrolière et du réseau de communication et de ports capable, proportionné aux besoins militaires du royaume, d'une intervention externe. L'Égypte a été le premier pays arabe à accepter de fournir des troupes, 40 000 hommes, dont les cadres ont fait la guerre d'octobre 1973, et ce sont des troupes habituées à manœuvrer avec les troupes américaines dans les manœuvres Brightstar qui sont bisannuelles. Le Maroc suit immédiatement, ainsi que les pays arabes du Golfe. La Syrie suit ensuite. Dès le début de la crise, Israël a mis la Jordanie en garde contre tout déploiement de forces irakiennes sur son territoire. L'État hébreu tente d'apparaître comme un atout stratégique pour les Américains. C'est ce qu'affirme David Levy le 3 août. Israël est plus que jamais un atout stratégique pour les États-Unis, car l'Irak ne menace pas seulement notre pays, mais aussi les États-Unis, car l'Irak menace aussi les États arabes modérés de la région, comme l'Arabie saoudite et le monde libre dans son ensemble. Face à la menace irakienne, on a recours à la dissuasion. Le chef d'état-major, le général d'Ochambron, marque que l'Irak devrait payer le prix fort. L'utilisation d'armes chimiques conduirait à une réponse non définie, mais que tout le monde comprend comme étant nucléaire. On laisse aussi entendre que l'on pourrait procéder à des bombardements préventifs des installations non conventionnelles en Irak. Mais le but des États-Unis est de construire une vaste coalition arabe et internationale contre l'Irak, et Israël reçoit la demande pressante de ne pas procéder à des opérations préventives qui ruineraient toute l'entreprise américaine. En échange, les Israéliens demandent une étroite coopération que Washington est réticent à accorder. Il n'est pas question de transmettre les informations photographiques sur le dispositif irakien afin de ne pas créer la tentation d'une action unilatérale. Les responsables israéliens se trouvent dans une situation difficile. Il prépare une invasion de la Jordanie en cas d'entrée des troupes irakiennes dans ce pays, mais les Jordaniens mettent sur le pied de guerre leurs propres troupes dans l'éventualité d'une attaque israélienne. Il y a le risque d'une situation au bord du gouffre qui pourrait aboutir à un conflit armé. L'autre crainte est une attaque chimique irakienne. L'aviation israélienne a les moyens d'intercepter une attaque aérienne, ce qui limite le danger à l'utilisation des missiles à longue portée, et on ignore si l'Irak a la capacité de placer des têtes chimiques sur ses projectiles. En outre, on dispose de puissants moyens de dissuasion que tout le monde comprend comme étant nucléaires. Il n'en reste pas moins que la population est effrayée par la possibilité d'usage de gaz de combat. La décision est prise de distribuer des masques de protection au cas où la situation deviendrait inquiétante. D'urgence, on se procure en Europe ces équipements de protection, les stocks présents étant insuffisants. Si d'un côté les Israéliens ne peuvent que se réjouir de voir une coalition internationale et arabe s'en prendre à leur adversaire arabe jugé le plus dangereux, de l'autre, ils sont contraints à une position d'attentisme qui traduit le fait que, loin d'être un atout stratégique pour les États-Unis, il constitue une gêne considérable. Alors que l'Irak annonce le 8 août une fusion totale et irréversible avec le Koweït, déclarée nulle et non avenue par la résolution 662 du Conseil de sécurité, ses adversaires arabes appellent à une convocation immédiate d'un sommet arabe. Un sommet arabe, le 10 août, condamne l'invasion et soutient par 12 pays contre sur 21 les mesures prises par l'Arabie saoudite et les autres États du Golfe pour assurer leur propre défense conformément aux dispositions de l'article 2 du pacte de défense commune, à l'article 51 de la Charte des Nations Unies et à la résolution 661. C'est-à-dire, sans le dire, la Ligue arabe approuve majoritairement l'arrivée du bouclier du désert. C'est un peu la réplique à l'appel au soulèvement des masses arabes et musulmanes lancé par Saddam Hussein le 10 août. Je cite. « Aux Arabes, aux musulmans et croyants du monde entier, le jour est venu de vous soulever et de défendre la Mecque capturée par les avant-gardes américaines et sionistes. Soulevez-vous contre l'oppression, la corruption, la traîtrise et les coups de poignard dans le dos. » Fin de citation. L'ONP et la Jordanie se trouvent dans une situation particulièrement embarrassante. Elles ne reconnaissent pas l'annexion du Koweït, mais refusent d'approuver le déploiement militaire occidental en Arabie saoudite. La presse égyptienne s'en prend vivement au président de l'ONP, tandis que le royaume saoudien exprime ouvertement son mécontentement. Mais croyant toujours à la force irakienne et à la solution arabe, Arafat se voit toujours en médiateur, alors qu'on l'identifie de plus en plus à Saddam Hussein. En privé, Mahmoud Abbas est très critique, mais il lui est impossible de s'exprimer publiquement. Comme pour le roi Hussein, il dispose d'un puissant mouvement populaire, d'un soutien populaire, ce qui n'est pas forcément un avantage, puisqu'Arafat paraît ainsi prisonnier de son opinion publique. Le monarque hachémite souligne publiquement le 12 août l'opposition entre la mobilisation en faveur du Koweït et l'abandon dans lequel se trouvent la Palestine et le Liban. Je cite. Je ne trouve pas d'explication à cela que dans la détermination des pays industrialisés à vouloir remanier la carte géographique de notre région qui recèle les deux tiers des réserves pétrolières du monde de manière à servir leurs intérêts faisant fi des aspirations des peuples de la région au progrès, au développement et à la stabilité. Le même jour, Saddam Hussein reprend le thème de son plan de paix en établissant une liaison entre la question du Koweït, celle de la Palestine et celle du Liban. Je cite. Tenant compte du fait que nombreux seront ceux qui pâtiront d'une guerre aux conséquences catastrophiques et soucieux de rétablir la vérité devant l'opinion publique mondiale et occidentale en particulier, de dévoiler l'imposture américaine qui veut faire croire que les États-Unis appuient la cause et les droits des peuples pour montrer que ce pays ne cherche qu'à préserver la paix et les intérêts de l'Occident, je propose que toutes les questions d'occupation présumées telles dans la région soient abordées selon les mêmes bases et principes qui seront élaborés par le Conseil de sécurité, à savoir 1. Élaborer sur la base des mêmes principes des dispositions prévoyant le retrait immédiat et inconditionnel d'Israël des territoires arabes occupés en Palestine, en Syrie et au Liban, ainsi que le retrait de la Syrie et du Liban et le retrait de l'Irak et de l'Iran, et élaborer des dispositions concernant la situation au Koweït, étant entendu que les arrangements militaires, qui doivent être mis en œuvre selon un calendrier précis, et tous les arrangements politiques connexes, seront fixés selon les mêmes bases et les mêmes principes et s'appliqueront à tous les cas, et qu'il sera tenu compte des droits historiques de l'Irak sur son territoire et du Shoah du peuple koweïtien. En outre, il faut commencer par appliquer ce plan au cas antérieur d'occupation et au cas présumé tel, en procédant tout d'abord à l'application systématique de toutes les résolutions du Conseil de sécurité et de l'Organisation des Nations Unies pour en arriver au cas le plus récent et en veillant à ce que les mêmes mesures prises par le Conseil de sécurité à l'encontre de l'Irak soient appliquées à tous ceux qui n'adhèrent pas ou ne se conforment pas à cet arrangement. Fin de citation. La liaison entre les différentes questions des pays occupés est redoutable pour une diplomatie américaine qui doit échapper à l'accusation de pratiquer les deux poids deux mesures. La stratégie de Becker est de laisser entendre, sans prendre position officielle, que l'on traitera de la Palestine une fois l'affaire du Koweït réglée. En Israël, on se réjouit du discrédit de l'OLP, aussi bien du point de vue international qu'arabe, mais on s'inquiète grandement des intentions américaines lors de l'étape suivante. De surcroît, on proteste devant les livraisons massives d'armements américains à l'Arabie saoudite. Le roi Hussein multiplie les tournées internationales pour défendre sa vision d'une solution arabe, mais il est de plus en plus isolé. La majorité des membres de la Ligue des États arabes s'est alignée sur l'Arabie saoudite. 8 membres, OLP, Jordanie, Algérie, Tunisie, Yémen, Mauritanie, Soudan et Irak, boycottent les travaux. La majorité en profite pour transférer le siège de la Ligue des États arabes de Tunis au Caire. Le royaume hachémite est la seule porte de sortie de l'Irak et par dizaines de milliers des réfugiés du Koweït et de l'Irak, essentiellement des travailleurs immigrés, affluent sur son territoire. Des camps d'urgence doivent être organisés alors que l'aide internationale met du temps à affluer. Israël interdit l'accès de la Cisjordanie aux Palestiniens résidant au Koweït ayant le droit de résidence en Cisjordanie ou à Gaza. Il faut ajouter les nombreuses expulsions de Palestiniens et de Jordaniens de la part des monarchies du Golfe qui expriment par là leur mécontentement de l'attitude de l'OLP et du roi Hussein. Il en est de même pour les centaines de milliers de travailleurs yéménites expulsés vers leur pays par l'Arabie saoudite. Au début de septembre, l'Union soviétique, qui s'était jusque-là alignée sur les États-Unis, relance le projet de conférence internationale de paix sur le Proche-Orient. La France approuve la proposition soviétique, mais pose comme préalable l'évacuation du Koweït et l'application des résolutions de l'ONU. Le communiqué du sommet Bush-Gorbatchev du 9 septembre marque le refus américain d'établir une liaison entre la question palestinienne et le Koweït. Les Américains reconnaissent néanmoins la nécessité de travailler activement à la résolution de tous les conflits subsistants au Moyen-Orient une fois la crise résolue. À la fin septembre, la protection de l'Arabie saoudite est assurée, tandis que grâce à de nouvelles résolutions du Conseil de sécurité, l'Irak se trouve maintenant soumis à un blocus total. La coalition internationale regroupe les troupes américaines, britanniques et françaises, ainsi que les divers contingents arabes et des détachements symboliques d'un certain nombre de pays. Les troupes occidentales sont sous commandement américain et les troupes arabes sous commandement saoudien. Une bonne coordination a été établie. Formellement, les Saoudiens dirigent l'ensemble, ce que font effectivement les Américains. Au début d'octobre, les stratèges américains peuvent commencer à travailler à la libération du Koweït. Les moyens disponibles conduisent à l'hypothèse peu acceptable d'une bataille frontale qui impliquerait de lourdes pertes face à la ligne de défense irakienne. En effet, l'armée irakienne, suivant l'expérience de la première guerre du Golfe, s'est retranchée derrière un puissant dispositif défensif qui lui permettrait de contenir l'assaut. La direction irakienne ne comprend pas qu'elle a en face d'elle une armée américaine complètement remaniée après la guerre du Vietnam et dont la doctrine militaire est la combinaison offensive des troupes terrestres et de l'aviation pour détruire le corps de bataille ennemi, ce qu'on appelle le Airland Battle ou bataille de l'avant. On appelait ça aussi en français à l'époque, la bataille de l'avant. L'armée irakienne a en face d'elle des forces qui ont été longuement préparées à affronter l'armée rouge. En fait, ce qu'on ne comprend pas, Saddam Hussein, c'est que c'est l'armée de l'OTAN, c'est-à-dire une armée qui a été calibrée pour casser une offensive de l'armée rouge soviétique. Et c'est évidemment un tout autre rapport que les batailles ou les guerres qu'on a connues au Moyen-Orient. Il y a un côté désert des Tartares, si vous voulez, dans cette affaire. C'est-à-dire, pendant des décennies, l'OTAN a mis en place un dispositif militaire, et en particulier dans les années 1980 sous Reagan, on a inversé le dispositif puisque jusque-là la doctrine militaire de l'OTAN était défensive, c'est-à-dire elle devait tenir suffisamment de temps pour permettre l'usage des armes nucléaires en dernier recours. Et on est passé à une doctrine offensive qui était ce qu'on appelait la bataille de l'avant, qui consistait, sans avoir recours aux armes nucléaires, par la combinaison de la puissance de feu et de l'aviation, à casser le corps de bataille de l'armée rouge. Et c'est cette armée-là qui part dans le Golfe. En Israël, la tension est très grande. Au début d'octobre, on commence la distribution des masques à gaz, sauf à la population palestinienne des territoires occupés, puisqu'elle ne cotise pas la sécurité sociale israélienne. Le niveau de violence est élevé, 5 morts arabes en moins d'une semaine. Les extrémistes de droite israéliens manifestent à Jérusalem pour demander l'expulsion des Arabes. La haine est particulièrement forte entre la population arabe de la ville sainte et les unités de garde frontières réputées pour leur brutalité. C'est dans ce contexte qu'un groupuscule messianique juif, les fidèles du monde du Temple, qui appelle la destruction des lieux saints musulmans de Jérusalem pour permettre la restauration du Temple, demande l'autorisation d'en poser la première pierre, le lundi 8 octobre, jour de la fête des tabernacles. La police leur interdit tout en leur accordant l'accès au site de 8 à 11 heures du matin. Lors de la prière collective du vendredi 5 octobre, des appels ont été lancés aux musulmans pour qu'ils protègent leur lieu saint le jour fatidique. Plusieurs milliers de musulmans de Jérusalem et de Cisjordanie se réunissent sur l'esplanade des mosquées le matin du 8 octobre. Les autorités religieuses appellent à la retenue. Il s'agit d'interdire l'accès aux fidèles du monde du Temple avant 11 heures du matin. Après cette heure, là, ils n'auront plus accès à l'esplanade des mosquées. Pendant ce temps-là, en contrebas, sur la place du mur des Lamentations, les cérémonies de la fête religieuse juive se déroulent, rassemblant une vingtaine de milliers de personnes. Une cinquantaine de fidèles du monde du Temple y participent, et de loin, on peut les confondre avec l'ensemble des croyants. C'est-à-dire que le groupuscule n'est vraiment qu'un groupuscule. Mais on est dans une situation explosive où vous avez 20 000 croyants musulmans sur le pied de guerre dans l'esplanade des mosquées et 20 000 fidèles juifs juste à côté, et évidemment chacun ayant peur de l'autre. L'événement provocateur a lieu vers 10h30-10h40. Selon la police, les gardes frontières auraient été victimes de jets de pierre et auraient riposté par des tirs de grenades lacrymogènes. Selon les témoignages arabes, il n'y a pas eu de lancer de pierre et les tirs de gardes de frontières n'ont pas été provoqués. La foule en colère lance des pierres et marche sur les policiers israéliens qui se retirent de l'esplanade. Les jets de pierre ont eu lieu après les tirs de gaz lacrymogènes et pas avant. Des cailloux passe de l'autre côté du mur et tombe sur les fidèles juifs en train de prier au mur des Lamentations. Le tout dure un quart d'heure, 20 minutes. À 11 heures, la police et les gardes frontières reviennent en force sur l'esplanade. Ils tirent à balles réelles sur la foule sans avoir reçu l'ordre de tirer. La fusillade dure une bonne heure. Le bilan est de 21 Palestiniens tués, 200 blessés, certains gravement, et 120 arrestations. Du côté juif, on n'a que 20 vitelles blessées et 6 policiers légèrement par des pierres. La disproportion montre de quel côté est venue la violence. Normalement, l'usage des armes à feu est limité à une situation de danger de mort. Or, ce n'était pas le cas à 11 heures du matin lors du retour de la police. À ce moment-là, le secteur du mur des Lamentations avait été évacué par les fidèles juifs. Les protestations dans les territoires occupés alourdissent le bilan de 3 morts supplémentaires. Le gouvernement israélien justifie le comportement de la police en affirmant qu'elle avait été victime d'une provocation organisée de l'extérieur dans le but de distraire l'opinion publique internationale du Golfe. Puis il est obligé de reconnaître, après les enquêtes de la presse, que le mouvement a été spontané. L'émoi international est considérable et risque de remettre en cause la cohésion de la coalition contre l'Irak. L'OLP demande une réunion urgente du Conseil de sécurité et des mesures internationales de protection de la population. Les Américains déplorent ces morts inutiles. Je me suis toujours demandé s'il y avait des morts utiles, mais ça, c'est autre chose. Et demandent aux Israéliens plus de retenue. Le président Bush affirme à la fois qu'il n'y a aucune relation entre la question du Koweït et celle de la Palestine et que personne ne doit douter de l'engagement des États-Unis à résoudre la question palestinienne. Pendant que les territoires occupés sont mis sous couvre-feu, les États-Unis tentent de s'opposer au Conseil de sécurité à une résolution qui condamnerait trop brutalement Israël, tout en évitant de paraître faire du deux poids deux mesures. Une solution de compromis est trouvée. Le secrétaire général des Nations Unies enverra une mission d'information. La résolution 672 du 12 octobre 1990 réaffirme qu'un règlement juste et durable du conflit arabo-israélien doit être fondé sur les résolutions 242 et 338 au moyen d'un processus actif de négociation qui tienne compte du droit de la sécurité de tous les États de la région, y compris Israël, ainsi que des droits politiques légitimes du peuple palestinien. Fin de citation. Le Conseil de sécurité, début de citation, considère 1. Se déclare alarmé par la violence qui s'est déchaînée le 8 octobre dans la Ramesh-Sherif et dans d'autres lieux de Saint-Jérusalem, qui a fait plus de 20 morts parmi des Palestiniens et plus de 150 blessés, notamment parmi des civils palestiniens et des personnes innocentes qui s'étaient rendues à la prière. 2. Condamne particulièrement les actes de violence commis par les forces de sécurité israéliennes qui ont fait des morts et des blessés. 3. Engage Israël, puissance occupante, à s'acquitter scrupuleusement des obligations juridiques et des responsabilités qui lui incombaient en vertu de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949, qui est applicable à tous les territoires occupés par Israël depuis 1967. 4. Demande à propos de la décision du secrétaire général d'envoyer une mission dans la région, dont le Conseil se félicite que le secrétaire général présente au Conseil de sécurité à la fin d'octobre 1990 au plus tard, un rapport contenant ses constatations et ses conclusions et fasse appel, selon ce qu'il conviendra pour l'accomplissement de la mission, à toutes les ressources des Nations Unies dans la région. Se référant à la souveraineté sur Jérusalem, le gouvernement refuse l'envoi de la mission d'enquête. Pour Shamir, je cite, « Jérusalem est la capitale d'Israël. Notre souveraineté sur la mosquée du Mont du Temple et les autres liens saints est complète. Les Nations Unies n'ont pas le droit de se mêler de ce qui ne les regarde pas. De surcroît, elles le font en termes blessants. Nous ne pouvons pas accepter que Jérusalem soit considérée, son nom ne figure d'ailleurs même pas dans la résolution, comme un territoire occupé. Nous sommes donc forcés de fermer notre porte à la mission du secrétaire général. La recevoir signifierait que nous reconnaissons que l'ONU a le droit de regard sur la capitale de notre État. Les États-Unis se trompent, ce n'est pas à nous de payer le prix de la coalition américano-arabe. S'ils se livrent à des calculs politiques, c'est leur affaire, mais pas sur notre dos. » Fin de citation. Le refus israélien entraîne de nouvelles réunions du Conseil de sécurité qui aboutissent le 24 octobre à la résolution 673 qui déplore le refus du gouvernement israélien de recevoir la mission du secrétaire général et incite pour ce qu'il conforme scrupuleusement à la résolution 672. Cette vaine résolution montre que la faiblesse de la coalition réside dans la question palestinienne et dans l'impossibilité, faute de sanctions, à faire respecter par Israël les résolutions du Conseil de sécurité, à un moment où on utilise la force pour imposer celle concernant l'Irak. La tuerie de Jérusalem entraîne dans les territoires occupés en Israël une vague d'attentats au couteau le 21 octobre et les jours suivants, faisant 3 tués et plusieurs blessés, essentiellement des militaires. Cette guerre des poignards suscite en Israël une vague de violence anti-arabe, tandis que les territoires occupés sont de nouveau mis sous couvre-feu. Surtout, les travailleurs des territoires occupés se trouvent interdits de se rendre en Israël. Cette violence est le résultat paradoxal du succès de la répression israélienne. Le soulèvement est épuisé, un semblant de vie normale a été rétabli et les activistes éliminés, soit par des arrestations, soit par assassinat. Mais on ne peut rien faire de préventif contre des actes d'individus isolés poussés par le désespoir. Au Liban, le 21 septembre 1990, le Parlement libanais a approuvé dans les formes juridiques nécessaires la réforme constitutionnelle prévue à Taïf. Le général Aoun considère que la Chambre n'a plus d'existence légale et donc que ce vote est nul et non avenu. La Syrie se déclare prête à aider la légalité à s'imposer. Après de ultimes et vaines tentatives de médiation, l'armée syrienne, sous protection de l'aviation, prend d'assaut le palais présidentiel de Bar Abda. Le général Aoun se réfugie dans l'ambassade de France. Les combats s'accompagnent de massacres, d'assassinats et de disparitions. La chute du général Aoun clôt la guerre civile libanaise commencée en avril 1975 et permet de faire débuter la Seconde République libanaise fondée sur les accords de Taif et la tutelle syrienne. L'usage de l'aviation, ligne rouge définie par Israël, marque bien que l'attaque s'est faite avec au moins l'acceptation résignée des Occidentaux. Selon la version israélienne, la non-intervention est due au fait qu'Israël ne pouvait pas se permettre une guerre contre la Syrie au profit du général Aoun. Pour le moins, Assad a parfaitement calculé. Le général Aoun paye ainsi son alliance avec l'Irak et la Syrie reçoit sa récompense pour sa participation à la coalition. Le pouvoir doit maintenant se lancer dans la difficile mission de réunifier le pays, désarmer les milices et reconstruire l'État. Les premiers signes du retour de la légalité sont la levée des barrages des milices et le retour des forces légales dans des secteurs où on ne les avait pas vus depuis des années. L'armée libanaise se déploie ainsi ostensiblement dans la banlieue sud. Un cessez-le-feu est conclu entre Hamas et Hezbollah, menant fin à une guerre dans la guerre. Le 2 novembre, le secrétaire général de l'ONU rend son rapport dans lequel il préconise de réunir les 164 pays signataires de la Convention de Genève en vue d'assurer la protection des Palestiniens dans les territoires occupés et d'étendre le mandat des organisations spécialisées de l'ONU travaillant dans les territoires. Le 4 novembre, la proposition est rejetée par le gouvernement israélien. Ce sont des territoires disputés qui se situent en dehors de la juridiction de la Convention de Genève car ils n'appartiennent à aucun État souverain. Le 5 novembre, le rabbin Kahan, dirigeant le mouvement d'extrême droite Cash en Israël, est assassiné à New York par un Américain d'origine égyptienne. Le lendemain, deux Palestiniens sont assassinés dans la région de Naplouse. Les autorités israéliennes reconnaissent l'existence d'une situation explosive et multiplient les mesures de sécurité. Durant toute la période, les relations entre le gouvernement israélien et l'administration Bush sont particulièrement froides. La volonté de Washington est de ne pas s'associer publiquement avec Israël pour assurer la cohésion de la coalition. On fait la sourde oreille aux demandes de financement supplémentaires destinées à faire face au coût de l'état d'alerte permanent et à l'installation de juifs soviétiques, sans parler des demandes de compensation ou livraison d'armes à l'Arabie saoudite. On limite les offres à la livraison de missiles Patriot, alors que les ennemis d'Israël au Congrès sont prêts à aller bien plus loin. Le Patriot est l'abréviation de Phased Array Tracking to Intercept of Target, mais en fait, l'acronyme est recherché évidemment le mot Patriot, donc les composants du terme sont secondaires. Enfin, ça signifie en bon français poursuite à antenne active pour l'interception de cibles. C'est le successeur du Hawk des années 60. Si vous vous rappelez, on avait parlé des missiles Hawk il y a quelques années. Il a d'abord été conçu comme un missile sol-air contre les avions, mais est en phase de modification afin d'intercepter des missiles balistiques. Une contre-attaque israélienne à une attaque balistique irakienne présupposerait de passer par l'espace aérien d'un membre arabe de la coalition qui ne pourrait pas ne pas répondre. Le cas le plus probable serait alors la destruction de l'aviation jordanienne par Israël. De ce fait, les États-Unis refusent toute coordination israélienne avec Israël, ce qui, en situation de guerre, rendrait inévitable une collision des deux aviations. Autrement dit, pour être plus clair, les Américains refusent de livrer les codes de transponding des transpondeurs américains dans la région, qui fait que donc les avions israéliens seraient identifiés par l'aviation américaine en voie de concentration dans le Golfe comme des avions ennemis. L'arme essentielle de l'Irak est le missile Scud, selon le codage de l'OTAN. Voilà un Scud. C'est pas très beau, hein? C'est un missile soviétique assez grossier, dérivé du V2 allemand de la Seconde Guerre mondiale. Sa portée est de 300 km. Les Irakiens ont réussi à doubler sa portée au détriment de la charge explosive limitée à 250 kg. Sa précision est faible, la marge est de 2-3 km, suffisante pour frapper d'importantes agglomérations urbaines. Les Irakiens l'ont utilisé dans la guerre des villes lors de la première guerre du Golfe et ont ostensiblement procédé à un tir d'essai à l'intérieur des territoires irakiens pour démontrer qu'il avait bien la capacité d'atteindre le territoire israélien. Les stratèges américains considèrent que le plan d'enveloppement de l'armée irakienne pour l'encercler et la détruire, plutôt que de procéder à un choc frontal, implique un doublement des forces américaines engagées. Le pouvoir accepte l'envoi de 200 000 des troupes stationnées en Europe et 200 000 hommes des troupes stationnées en Europe et aux États-Unis. Les nécessités logistiques font que le dispositif ne sera pleinement opérationnel qu'entre le 15 janvier et le 15 février. Cela donne les dates nécessaires pour fixer un nouvel ultimatum à l'Irak et obtenir une résolution du Conseil de sécurité justifiant le recours à la force pour libérer le Koweït. Le calendrier militaire fixe ainsi le calendrier politique qui assure la préparation psychologique à la guerre. Les visites de Baker et de Bush au Moyen-Orient durant le mois de novembre ignorent ostensiblement Israël, ce qui provoque une vive irritation du gouvernement israélien qui se plaint en particulier de la rencontre entre Bush et Assad le 23 novembre, qui précède de peu la reprise des relations diplomatiques entre la Syrie et la Grande-Bretagne. Dans ses entretiens avec les chefs d'État arabes, Bush rappelle son engagement envers le processus de paix. Même s'il n'y a pas de lien entre le Koweït et la Palestine, plus il réussira dans le premier dossier, plus il pourra agir dans le second. On promet alors d'inviter Shamir à Washington au mois de décembre. De même, les États-Unis soutiennent le nouveau gouvernement libanais et donnent leur appui à la souveraineté totale du Liban sur son territoire. À l'ONU, la question est de savoir qui aura préséance au Conseil de sécurité entre la question palestinienne et celle du Koweït. L'ONP demande une nouvelle résolution sanctionnant le non-respect des résolutions 672 et 673, alors que la diplomatie américaine se concentre sur l'obtention du recours à la force. Elle triomphe avec la résolution 678 du 29 novembre 1990 qui autorise les pays de la coalition à user de tous les moyens nécessaires pour établir la souveraineté du Koweït si au 15 janvier 1991, l'Irak n'a pas retiré ses forces. Moi aussi. George Bush propose alors d'inviter le ministre irakien des Affaires étrangères, Tariq Aziz, à Washington et d'envoyer Baker à Bagdad. Il s'agit de montrer que l'on a fait tout pour éviter la guerre tout en refusant toute concession aux dépens du Koweït. L'Irak accepte à condition d'élargir la discussion à tous les problèmes du Proche-Orient. Il s'ensuit plusieurs semaines de dialogue de sourds avant qu'on ne se mette d'accord pour une réunion à Genève le 9 janvier. Les Israéliens et les alliés arabes des États-Unis s'inquiètent du risque de concession à l'Irak. Bush rassure ses interlocuteurs. Il n'y aura rien qui puisse aller dans le sens de sauver la face à Saddam Hussein. La tension demeure forte dans les territoires occupés en dépit de l'assouplissement des mesures de coercition. Des tentatives d'infiltration armée à partir de la Jordanie font un mort dans l'armée israélienne le 12 novembre et reposent le risque de confrontation israélo-jordanienne. Les autorités israéliennes s'inquiètent des résultats de la démocratisation dans le royaume hachémite qui voit le rapprochement des islamistes et des Palestiniens dans une commune hostilité à Israël et un soutien à Saddam Hussein. On adopte le discours de la lutte contre les croisés, les occidentaux et les sionistes. Les frères musulmans obtiennent la présidence de la Chambre des députés. Si la position diplomatique du roi est affaiblie dans les relations interarabes internationales, il est en accord avec son peuple, ce qui lui permet d'assurer la survie de la monarchie dans ces temps difficiles. La constitution du Grand Beyrouth débarrassée des milices, la fin du conflit Hamas-Hezbollah et la volonté des mouvements palestiniens de marquer leur place dans le nouveau Liban se traduisent par un retour des forces anti-israéliennes au sud. Un officier israélien est tué le 20 novembre, tandis que l'armée israélienne et l'ALS reprennent le ratissage. Le 25 novembre, un soldat égyptien passe la frontière égypto-israélienne et ouvre le feu sur plusieurs véhicules militaires, tuant 4 Israéliens, 3 militaires et un civil, et en blesse 26. Il est arrêté par les autorités égyptiennes qui condamnent cet acte irresponsable. Le même jour, l'attentat suicide d'une jeune Libanaise de 19 ans du PCNS, l'ancien PPS, blesse deux soldats israéliens au sud. Israël somme ses voisins de contrôler leurs frontières. Le 27 novembre, dans le secteur de Sheba, un affrontant entre l'armée israélienne et un commando du FPLP fait 5 morts dans les rangs israéliens. Les dirigeants israéliens accusent le gouvernement libanais de soutenir les actions terroristes. L'intéressé répond en rappelant que l'action a lieu sur le sol libanais et que Israël aurait dû l'évacuer selon la résolution 425. En décembre, on semble passer à la lutte armée dans les territoires occupés avec des tirs et des attentats à l'explosif contre des soldats israéliens. On parle d'un processus de libanisation au sens cette fois de guérilla contre les troupes d'occupation. Le 14 décembre, 3 civils israéliens sont tués à coups de poignard à Jaffa. Cette attaque et les précédentes au couteau sont revendiquées par le Hamas. En réplique, les autorités israéliennes procèdent à des centaines d'arrestations et annoncent le bannissement de 4 activistes du Hamas. En Israël, Rabin reproche au gouvernement de ne connaître que l'usage de la force dans les territoires occupés et de négliger totalement l'aspect politique. Israël doit annoncer son intention de relancer le processus de paix une fois la crise du Golfe réglée. Les colombes du Parti travailliste, représentées en particulier par Yossi Beilin, poussent à des négociations avec l'OLP, sinon il faudra un jour négocier dans des conditions bien plus difficiles avec le Hamas et le djihad islamique. Peres les rappelle à l'ordre, mais cela ne dure qu'un temps. Beilin propose un plan qui aurait l'accord moins partiel de certaines personnalités des territoires occupés, établissement dans le cadre d'un accord intérimaire d'un État palestinien dans la bande de Gaza et d'une autonomie en Cisjordanie. On passerait ensuite aux négociations sur un règlement global. Le tout serait conditionné à la conclusion du traité de paix entre Israël, la Syrie et l'Irak. Alors, je ne sais pas s'il y aura la guerre avec l'Irak. Vous le saurez même l'année prochaine, puisque la semaine prochaine, il n'y a pas cours, étant donné que les vacances scolaires commencent le mercredi. Donc, il nous reste 2 séances, le 4 et le 11 janvier. Je vous remercie.